RMC.
Je n'ai ni diplôme de médecin ni d'avocat. J'ai juste une licence de grande gueule.
10h, 13h.
Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La finance, c'est du baratin, du bluff.
La poudre aux yeux.
Les grandes gueules.
Petit diable de beau parleur.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, les grandes gueules avec aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans les GG depuis 10h ce matin, Franck Tanguy, conseiller en investissement financier, la communicante Françoise Degois qui est des nôtres et le président du rugby club toulonnais, monsieur Mourad Boudjelal. Le super GG et vous, c'est tout à l'heure à 12h40. Vous revenez en direct au 32-16 reparler de ces sujets qui ont fait l'actualité des GG, par exemple la manif pour tous. On a parlé aussi des tactiques à gauche, Manuel Valls à la City, les tactiques à gauche avec Cécile Duflot, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, de Xavier Bertrand qui pense que Nicolas Sarkozy s'est dû à nouveau unique que les convaincus et qu'il est dur pour l'ancien président de se réinventer. Parler de la responsabilité individuelle aussi des étudiants, de ce maire qui veut un arrêté municipal pour interdire l'arrivée des bouteilles d'alcool sur le campus universitaire du côté de Vannes. Bref, beaucoup de sujets qui vous ont fait réagir et on en reparle tout à l'heure au 32-16 entre 12h40 et 13h.
RMC, le grand oral des grandes gueules.
Qui passe le grand oral des GG? Il s'agit de l'ancien inspecteur du travail, membre du bureau du Parti Socialiste, monsieur Gérard Filoche.
Gérard Filoche, bonjour.
Bonjour.
Gérard qui revient avec ce livre, Comment résister à la démolition du code du travail, notre CDI, notre CDD, tout ça est menacé par le gouvernement Valls?
Oui. Oui, ce gouvernement.
Merci Gérard.
Ce gouvernement qui est un gouvernement de gauche ne fait pas une politique de gauche et donc il menace le code du travail.
Alors,
bien sûr.
Donnez-nous des exemples concrets.
Il nous menace de travailler le dimanche. Et il nous menace d'exploser les contrats à durée déterminée. Il menace d'ouvrir. Vous avez entendu Rebsamen. Même les 35 heures, il est remis en cause. Les seuils sociaux, il est remis en cause. L'ANI. Accord national interprofessionnel de l'année dernière, qui a été signé par le patronat, qui est devenu une loi sapin le 14 juin dernier, est une catastrophe dans les entreprises. Il facilite les licenciements. Le patronat a renié même ce qu'il pensait être positif sur la question des temps partiels. Tiens, je vais prendre celui-là. Il doit y avoir un plancher pour les temps partiels à 24 heures. C'était bien, parce qu'il y a 2 700 000 temps partiels, il y a 85% de femmes et 80% de gens non qualifiés. Donc c'était bien, a priori, même pour les femmes à temps partiel. Eh ben, le patronat a signé et il s'assoit dessus. La loi l'impose. Et ils ne la respectent pas. Ça devait être fait le 30 décembre dernier. Ils ont fait une saisine rectificative le 22 janvier. Ils ont changé la loi le 7 mars. Ça devait être signé le 30 juin. C'est toujours pas signé. Et maintenant, le patronat remet en cause ce qu'il met. Tout ce qu'on donne au patronat, il n'en a jamais assez. Toujours plus contre les salariés.
Toujours plus
pour faire suer le burn-out. Toujours plus pour augmenter le chômage. Toujours plus pour que les licenciements soient pas contrôlés. Toujours plus pour qu'on travaille le dimanche et qu'on travaille de nuit. Et le gouvernement Valls,
Excusez-moi de noter une contradiction. Parce que on travaille, on n'est pas au chômage.
Je la connais, la contradiction. Vous pouvez travailler 12 heures, 14 heures, 17 heures. Et vous prenez la place de ceux qui n'ont pas de boulot.
Bah, c'est toujours mieux que de rien faire.
Oui, bien sûr, c'est toujours ça. Vaut mieux être un peu esclave que pas esclave du tout.
Vaut mieux
avoir un CDD pourri que de ne rien avoir du tout. Vaut mieux se casser la tête sur des gardes-corps quand il n'y en a pas et tomber et mourir au travail plutôt que de rester au Pôle emploi.
Pourquoi on ne crée pas des emplois un petit peu, histoire de savoir ce que c'est.
Attendez, pour créer des emplois, le dernier moment où on a créé des emplois.
Vous, à titre personnel.
Le dernier moment où on a créé des emplois dans ce pays. Mais je m'en fous de mon copain de truc personnel. Je me fous du fait qu'il y a 6 millions de chômeurs. Et la dernière fois qu'on a fait reculer le chômage, c'était quand on a fait les 35 heures. Même Fillon est d'accord là-dessus. Il avait dit qu'on avait créé 400 000 emplois.
Si on n'avait pas les 35 heures,
on aurait 500 000 chômeurs de plus. Alors moi qui suis un défenseur, monsieur, des 35 heures.
Laissez-moi
terminer. Moi qui suis un défenseur des 35 heures. Je suis en train de vous dire. Moi qui me suis battu pour les 35 heures dès les origines. 35 heures sans perte de salaire.
C'est des emplois publics.
Quand j'ai monté ma première boîte en 1990, j'ai salé les mains. 9h midi, 14h-18h, c'est largement suffisant pour travailler. Donc, je suis un fervent défenseur.
Mais moi, je pose la question, puisque c'est si simple d'être patron,
pourquoi vous créez pas des emplois, devenez patron?
C'est pas simple d'être patron. J'ai qu'une envie d'exploiter personne, moi.
Mais vous dites,
j'ai envie que les gens.
Mais on n'exploite pas, c'est vous qui exploitez les patrons. n'exploite pas. Vous exploitez un système, vous, dans lequel vous êtes bien installé et qui vous permet de vivre bien au-dessus de ce que vous auriez gagné si vous n'aviez pas été dans ce système.
Les 35 heures nous ont fait 500 000 emplois. Si on n'avait pas les 35 heures, on aurait 500 000 chômeurs.
C'est ce que vous pensez, vous.
Attends,
allez-y.
Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous vous dites, oui, on a fait ci, on a fait ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, le CDI n'existe pas, monsieur. Il faut le savoir. Mais non, le CDI n'existe pas, monsieur. Le SMIC est à combien, monsieur Filoche? Le SMIC est à combien?
1433 en brut.
Non, 2300 euros.
Mais non.
Mais si, parce que le SMIC coûte 2300 euros à l'entreprise, monsieur. Et oui, ça veut dire qu'il y a des charges patronales et salariales.
Non, il n'y a pas de charges salariales.
Attendez. Mais si.
Non. Ça s'appelle pas charges, monsieur. Ça s'appelle les cotisations.
Ce sont des charges salariales.
C'est du salaire brut, monsieur. Regardez,
les patronales et les salariales. Et elles sont payées par la même personne qui est l'employeur.
Mais vous connaissez pas.
Mais je comprends bien, j'ai jamais fait le chèque de votre vie, je comprends bien que vous le sachiez pas.
Regardez, moi j'en paye. Il y a marqué salaire brut.
Oui, mais c'est. Mais qui c'est qui les paye ces charges?
Salaire brut.
Qui c'est qui les paye ces charges?
Bah, évidemment, c'est l'employeur.
Mais voilà.
Et croyez-moi qu'il lui reste encore assez d'argent pour faire des profits, parce que sinon, il dépendrait de sa boîte.
Le CDI, pour qu'il existe, il faudrait qu'une entreprise ait un CDI sur ses commandes.
Enfin, écoutez, vous me parlez de qui, là? Vous me parlez du CAC 40, des 1000 entreprises de plus de 1000 qui font la moitié du produit intérieur.
Ce sont simplement 40 salariés privilégiés. Je suis d'accord avec vous sur le CAC 40.
Non, non, non.
Ce sont pas des patrons.
Ils font la moitié de l'économie française.
Ce sont pas des patrons. Moi, je vous parle des patrons. Qui créent des emplois en se mettant en caution de tout et qui n'ont aucun droit, qui n'ont pas droit au chômage, qui ont simplement le droit d'être caution des comptes de leur entreprise,
monsieur,
et qui vont sur cette caution créer des emplois. Et aujourd'hui, il faut être courageux pour créer des emplois.
Vous me donnez 1000 pour vous expliquer les entreprises en France.
Expliquez-moi ce que vous avez jamais fait.
Il y a 1000 entreprises de plus de 1000, elles font la moitié de l'économie. Ensuite, il y a des PME, des PMI et des entreprises de taille intermédiaire. Seulement 12,5% des salariés de ces entreprises sont indépendants. Tous les autres sont dans les groupes et dépendent des 1000. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entreprise sur deux qui est indépendante. Le donneur d'ordre, c'est les 1000. Toute l'économie française est décidée par les 1000. Et il n'y a qu'une toute petite partie des PME.
On est passé de 40 à 1000 déjà. Petite évolution.
Mais vous n'avez pas suivi.
Non.
Le CAC 40, ce sont les 40 premières. Et 1000 entreprises de plus de 1000 font la moitié du produit intérieur brut français.
Et,
toutes les autres sont des sous-traitants.
Qui sont totalement indépendantes.
Qui
viennent de personnes courageuses qui ont monté leur entreprise, qui ont créé des emplois. Parce qu'il ne faut pas oublier que il est plus important
d'en créer
que
des minorités.
Parce que les défenseurs d'emploi n'en ont jamais créé.
C'est une petite minorité.
Les défenseurs d'emploi n'en ont jamais créé. Et eux, à la problématique de se dire, est-ce que je vais créer des emplois? Ils disent non, c'est trop dangereux, je vais plutôt les défendre. Ça me va mieux et actuellement, ça va me permettre de grandir. Si, je vous réponds absolument. Et ces gens qui ont créé des entreprises qui emploient plus de 1000 salariés, il faut leur tirer un coup de chapeau. Ils ont fait plus de syndicalisme que vous. Le vrai syndicalisme, c'est de créer des emplois. M. Filoche, aujourd'hui, c'est pas de les défendre. Ça, c'est du syndicalisme. Moi, le créateur d'emplois est un vrai syndicaliste. Vous êtes passif dans l'économie du monde.
Je suis pour la semaine de 30 heures. Je sais la seule façon dont on fera face pour partager le travail.
Et moi, je suis pour qu'on arrête de mourir.
Et je vais vous dire une chose. On a 850 000 naissances par an. Depuis l'an 2000. Ça fait un paquet. Mmh. Ils vont arriver sur le marché du travail en 2018. Et chaque année, il viendra 350 000 jeunes de plus. Si on ne passe pas la semaine de 32 heures, 30 heures, notre pays implosera. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y en a qui veulent remettre en cause la politique de natalité. Et baisser la prime pour la naissance du deuxième enfant. Parce que c'est une des choses qui marche. Et on est en train de la mettre mal en s'attaquant aujourd'hui à la politique familiale.
Je parle comme Christine Boutin maintenant.
Oui.
Vous parlez comme Christine Boutin maintenant, alors.
Ouais, bien sûr, je suis pour les bébés, moi.
Non, mais vous
dites
la même chose.
C'est les banquiers qui aiment pas les bébés. Parce que pour les banquiers, c'est trop cher, un bébé. Ça demande du boulot, ça demande du salaire, ça demande des cotisations sociales. Et les banquiers n'aiment pas les bébés. Les banquiers sont plus allemands que français. Parce qu'en Allemagne, il y a 1,4 enfants par femme. Chez nous, il y a 2,1 par femme. Et ça, c'est excellent.
Monsieur Filoche, je voudrais juste vous rapporter. Moi, je suis conseiller en investissement financier. Il se trouve que je rencontre des salariés. Je rencontre beaucoup de salariés, des cadres pour la plupart, mais aussi des entrepreneurs. Et je voudrais vous raconter quelques anecdotes. J'ai discuté avec un patron d'affaires qui pouvait investir soit en Allemagne pour ouvrir une chaîne de restaurants, soit en Allemagne, soit en France. Sa décision a été finalement d'aller ouvrir cette chaîne en Allemagne. C'était une chaîne d'origine anglaise. Pourquoi ils l'ont fait en Allemagne? Parce que le coût du travail était 30% inférieur. Donc, à cause de ce coût-là, on a perdu des centaines d'emplois en France. Premier exemple. Deuxième exemple, il y a énormément de petits entrepreneurs, comme moi par exemple. Moi, je suis un libéral, mais j'aurais besoin d'aide. Je ne vais pas recruter parce que c'est extrêmement coûteux. Ça, c'est une chose, mais Mourad l'a évoqué.
Et c'est pas sûr que t'en aies besoin tout le temps de l'aide.
J'en aurais pas forcément besoin tout le temps. Et surtout, si demain, cette personne ne me convient pas, ou si j'ai un retour économique qui fait que le coût devient supérieur à ce que ça va me rapporter, j'aurais beaucoup de mal à la licencier. Non.
Ah, autrement dit,
non mais vous me comprenez,
il va
la souplesse.
Très bien, je vais vous répondre. En Allemagne, ce dont vous parlez là, il y en a 5, 6, 7 millions, ils sont payés 2, 3, 4 euros de l'heure. Si vous voulez ça pour les salariés français...
C'est pas cela
dont on parle. Si, bien sûr, c'est cela dans la restauration. Vous venez prendre l'exemple de la restauration. C'est bien la restauration. Mais si, monsieur, et du bâtiment, et des abattoirs.
Et de l'agroalimentaire,
Pourquoi vous croyez qu'à Gade, ils ferment l'abattoir? J'essaie de le dire. Pourquoi vous croyez qu'à Gade, ils ferment l'abattoir? Parce que c'est 2, 3 euros en Allemagne. Mais l'Allemagne, heureusement, parce que Mme Merkel a été battue aux dernières élections, contrairement à ce qu'on ne sait pas, parce qu'elle avait moins de sièges et moins de voix, elle a donc été obligée de concéder le SMIC. Et le SMIC, il se met en route l'année prochaine. Et donc le SMIC, les salaires allemands vont heureusement rattraper les salaires français. Et ça, ça cassera une compétition scandaleuse que les Allemands ont fait. Un dumping social inouï contre 7 millions d'immigrés sur leur territoire qu'ils traitaient comme des esclaves.
En réalité, la force de l'Allemagne, c'est la force d'avoir créé un réseau de PME depuis des dizaines et dizaines d'années, bien avant la Deuxième Guerre mondiale.
C'est que le mythe de la bonne société allemande et de la bonne santé économique de l'Allemagne est complètement en train de s'effondrer, quand même.
Sauf que t'as un budget en équilibre et une balance
des abattoirs. Qu'est-ce que c'est un budget en équilibre?
Je peux t'en parler des abattoirs allemands.
Le Portugal a eu un budget en équilibre pendant 40 ans, il est devenu le pays le plus pauvre d'Europe.
Bien sûr, bien sûr.
Entre 1934 et
1934. La réalité, c'est qu'on est passé d'une économie française à une économie mondiale. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'en France, on ait les armes pour se battre dans une économie mondiale. Oui. Moi, je vous pose une question, M. Filoche. Je fabrique des t-shirts, voyez-vous. Ouais. Voilà.
Eh bien, très bien ça.
C'est très bien, oui. Voilà. Vous avez un t-shirt, vous avez votre entreprise, M. Filoche.
Je vois.
Oui, vous voyez quoi.
Parce que je vois les t-shirts de mauvaise qualité qu'on fait payer par des immigrés à Bombay, c'est ça.
Vous avez des immeubles qui s'écroulent
par des sociétés qui nous les revendent ici 10 fois de prix.
Vous avez des a priori.
Oui.
Vous faites fabriquer votre t-shirt en Tunisie ou au Maroc.
Oui, c'est ça.
Il vous coûte 0,40.
La vérité,
vous le faites fabriquer en France, il vous coûte 2 euros. Vous êtes chef d'entreprise et vous devez gérer vos salariés, votre bas de bilan et votre carnet de commandes qui est pas forcément assuré. Vous faites quoi, vous? Est-ce que vous avez vous faites quoi?
Je vais vous dire. Je vais vous prendre un exemple chinois. Moi, je suis allé sur la muraille de Chine. C'est comme le Mont-Saint-Michel, là-bas. On vous vend des t-shirts. La fille, elle m'a dit un t-shirt. Vous voulez 10 euros. Vous voulez 10 euros. J'ai dit non. Elle m'a dit 5 euros. J'ai dit non. Elle m'a dit 1 euro. J'ai dit non, ma valise est trop pleine. Elle m'a proposé 0,50 centimes d'euros. Alors, j'ai acheté le t-shirt quand même.
Ah, j'ai du commerce.
Mais je suis arrivé ici, monsieur, au Forum des Halles. Et j'ai vu le même t-shirt à 20 euros. Alors je voudrais savoir le gars qui a fait la culbute, qui est allé les chercher là-bas avec du travail exploité pour 0,50 centimes et qui nous le vend ici en nous exploitant pour 20 euros.
Vous faites quoi? Vous l'achetez à 0 ou à 0,50 centimes d'euros, monsieur Filoche? Vous l'achetez à quel prix?
Il l'a acheté 0,50, il t'a répondu.
Vous l'achetez à 0,50.
Françoise Degoy.
Alors Gérard Filoche, question quand même, c'est une question politique parce qu'on peut débattre ad vitam aeternam de l'économie. La question politique, c'est comment est-ce que vous faites finalement pour peser sur ce gouvernement dont vous estimez qu'il a tous les maux du libéralisme, enfin le nouveau diable, c'est Manuel Valls. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites un congrès, vous faites des manifs, vous allez voir François Hollande, vous allez expliquer, alors comment vous faites?
Tout ça.
Eh bien ça marche pas pour le moment, a priori.
Oui, mais ça va marcher.
Pourquoi?
Parce que le gouvernement Valls est absolument minoritaire à gauche.
Il est minoritaire à droite.
Je vais vous le dire, si vous me permettez.
Mais expliquez-nous pourquoi il est minoritaire.
Il repose sur une tête d'épingle, il rassemble même pas tout le Parti Socialiste. Il avait encore des gens composants de la majorité du Parti Socialiste, c'était Hamon et Montebourg, il les a virés. Il avait encore d'autres gens.
C'est prévise de la France, c'est pas prévise du Parti Socialiste.
Qui représente Valls? Valls a été un gouvernement imposé au Parti Socialiste. Il émane pas du Parti Socialiste. Parce que s'il émanait du Parti Socialiste, comme disait François Mitterrand, il rassemblerait tous les socialistes. Et mieux.
Gérard Filoche.
Oui, mais Laurent Fabius, attends, non. Laurent Fabius a voté par exemple, à la Constitution. Laurent Fabius, vous pouvez considérer.
Valls aussi.
Non.
Il s'est retourné comme
Il s'est retourné,
après.
Ça, je sais, je m'en souviens.
Mais
très
il a voté
bien.
Non aussi.
Non, mais je veux dire,
j'ai fait des meetings avec Valls pour le non.
Moi aussi. En quoi pouvez-vous dire que ce gouvernement ne représente pas l'ensemble de la gauche?
Je suis en train de vous m'interrompez. Pardon. Mais je vous dis qu'il est sur une tête d'épingle du Parti Socialiste, qu'il ne rassemble pas tout le Parti Socialiste, qu'il ne rassemble pas la gauche, qu'il a été nommé par le haut et qu'il s'impose à nos députés.
Mais les députés ont voté à la confiance. Je comprends pas ce que vous dites parce que, Manuel Valls n'est pas premier secrétaire du PS, donc il n'a pas rassemblé le Parti Parti Socialiste, il est Premier ministre de la France. Et il a obtenu la confiance à l'Assemblée Nationale, Gérard Filoche.
Mais je vais vous expliquer, dans la 5ème République, on dit aux députés, si vous votez pas, je vous dissous. Et le premier secrétaire dit aux militants, ouais, si vous votez contre, je vous exclue.
Alors,
moi, je veux pas être exclu de mon parti, je veux convaincre dans mon parti.
Non, mais c'est vous qui êtes minoritaire, Gérard Filoche.
Non, pas du tout, parce que moi, mais mon parti, il a voté un projet socialiste à l'unanimité. Valls était dedans, je sais pas ce qu'il pensait à ce moment-là, mais il a voté, il a pas fait entendre sa voix.
Mais aujourd'hui, on n'est pas au congrès du PS, Gérard Filoche.
Moi, je suis quelqu'un, quand je fais de la politique, je défends quelque chose dans mon parti, je le défends de mon électeur, et j'essaie de le faire passer en application. Je fais pas le contraire une fois que je suis élu.
Mais peut-être que c'est vous qui êtes minoritaire. Idées sont minoritaires.
Prouvez-le donc. Je vais vous donner les éléments pour le prouver. Faisons un congrès du Parti Socialiste, nous le réclamons.
Mais le congrès du PS, c'est pas la France. C'est des élus, c'est des notables du PS.
Le PS, c'est quand même le parti qui a la majorité des voix jusqu'à présent. Je vais vous dire quelque chose. Dans le PS, je suis pas minoritaire, je suis majoritaire. Et Valls est minoritaire. Et il faut me faire un congrès pour me prouver le contraire.
C'est la réalité des chiffres. Il faut quand même l'admettre.
Quelques questions diverses pour essayer de vous comprendre. Et je vous rassure, je suis pas en opposition sur tout avec vous.
Vous allez me parler du code du travail après?
Non. À partir de combien on est riche?
Écoutez, monsieur, la salaire médian, c'est 1 650 €. Vous savez qu'avec ça, on peut pas vivre.
Si, je suis d'accord avec vous.
Savez
mais à partir de combien on est riche, à votre avis?
93% des actifs, 93% des actifs sont des salariés. Et 98% d'entre eux gagnent moins de 3 200 €. C'est-à-dire, à partir de là, vous avez vous avez pratiquement pas de classe moyenne.
En matière de fiscalité,
elle n'existe pas.
En matière de fiscalité, à partir de quel moment l'État doit être très conservateur?
Je vais vous dire.
Dites-nous.
Il faut 20 tranches d'impôts. Il y en avait 13 sous Balladur, on est revenu à 5, on est à 4 maintenant.
20 qu'il y a une tranche à 100%?
Il faut des tranches fines, très progressives.
Est-ce qu'il y a une tranche à 100%?
Et je suis pour une tranche à 90% autour de plus de 20 fois le SMIC. C'est comme Roosevelt avait fait en son temps. C'est pas très innovateur ce que je dis d'ailleurs.
Ça veut dire.
Et je vais vous dire, mais il y a 1% des gens dans ce pays qui possèdent 25%. Écoutez-moi bien. 1% possède.
90% au-dessus de 30 000.
1% possède 25% des richesses. 10% dans notre pays possède 60% des richesses. C'est à cela qu'il faut prendre. On résout le problème d'équilibre.
Nous, ils sont déjà partis. Parce que vous me parlez de Roosevelt, vous parlez d'un temps qui n'existe plus.
Mais ils sont déjà partis.
Mais monsieur,
mais on peut les
sortir.
Mais pas
ils sont partis.
Mais attendez, c'est parti de l'ordre de Bourget. Rappelez-vous sa phrase. La délinquance ancienne, le disons, la République vous rattrapera. Mais bien sûr qu'on peut les rattraper.
Monsieur Filoche, ils sont partis, on ne peut pas les rattraper. Parce qu'on a la liberté de circulation en Europe.
Vous connaissez Offshore
Links. Monsieur Filoche, au-dessus de 30 000, tout le monde s'arrête de travailler. Tout le monde s'arrête de travailler.
Et tout le monde, c'est 1%, c'est rien. Ils ont tout, ils sont 1%, ils sont rien.
On est
90%, ceux-là partiront pas. On peut s'en prendre au 1%. Écoutez-moi, Offshore Links, 168 journalistes dans le monde ont mis à jour, comme Snowden, tous les réseaux financiers de la planète. On peut tout avoir. On a tout, on sait tout. Et les Américains savent s'en servir. Mais nous, pas suffisamment. Parce qu'on a 80 milliards de fraude fiscale. On en a fait revenir 1,8 milliard cette année. Il reste encore 72 milliards
on
à aller chercher.
Milliards de
quand
dettes.
Vous vous réveillez le matin,
que
vous entendez.
C'est plus intéressant. Attends. Que de garder les gens à bord plutôt que de les inciter à partir. C'est-à-dire partout, tout le monde.
Les trafiquants de finances, les gens qui vont dans les îles Caïmans.
C'est la vision que vous avez.
Oui, bien sûr.
Moi, je vais vous dire, je rencontre des entrepreneurs et des cadres. Je peux vous assurer, parce que je vois avec eux, je regarde leur patrimoine et leurs rêves, ce sont pas du tout des trafiquants.
Ce sont des gens
qui veulent rester dans ce pays et qui commencent à être découragés.
La moyenne des salaires des patrons, c'est 4 500 €. C'est même pas riche.
Parce qu'on
a 1 million de patrons de moins de 10.
Est-ce qu'un patron a le droit de licencier un salarié s'il est pas bon? Dans l'hypothèse où un salarié n'est pas bon, est-ce qu'un patron a le droit de le licencier ou pas?
Est-ce qu'un salarié a le droit de licencier un patron qui est pas bon?
Non, mais je peux.
Il y en a beaucoup, hein.
Monsieur Filoche, j'imagine que vous êtes pour une répartition équitable des dividendes entre salariés et patrons. Donc, dans ce cas-là, est-ce que vous êtes d'accord pour une réduction des salaires quand l'entreprise perd de l'argent?
augmenter les salaires, monsieur. Je suis pour un SMIC à 1 700 €. Je suis pour augmenter les salaires. Voilà. Mais non, on n'est pas tous pour ça.
Moi, je suis pour l'égalité des salaires.
Pour l'instant, la seule chose qui augmente, c'est les dividendes. La seule chose qui augmente, c'est les dividendes. La seule chose qui augmente, c'est les profits. Et ils sont même pas réinvestis. Puisqu'on a 590 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux qui ne servent à rien.
Quelle raison,
monsieur Philoche? Ils sont qui manquent à notre pays. Et que les financiers de notre pays.
Pour quelle raison?
Parce qu'ils en volent toujours plus. Ils sont rapaces.
Absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne veut investir dans ce pays.
Mais c'est pas vrai. On est le troisième pays en investissement financier.
Alors, on continue de discuter. Vous avez le code du travail. Celui qui lit le code du travail, il embauche.
Justement, vous allez dire un mot sur le code du travail.
Celui qui lit le code du travail, il s'en va en courant.
Bien sûr.
Et
une question de Françoise Degois. Dans un instant, vous avez dit qu'il y aurait de l'ambiance avec Gérard Filoche. Allez, à tout de suite.
RMC, les grandes gueules. RMC, 10h-13h, à la Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Et les GG en direct sur RMC avec Mourad Boudjelal, Françoise Degois et nous sommes avec le socialiste Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail, qui est venu avec un livre « Comment résister à la démolition du code du travail » édition Le Vent se lève.
Parlons un peu du code du travail et de ce contrat unique, ça revient régulièrement dans le débat. On voit que la France des salariés est partagée en deux. Il y a les CDI plutôt bien protégés et puis les CDD qui tendent à devenir majoritaires parce que c'est compliqué maintenant de décrocher un CDI quand on démarre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser les choses en l'état ou réfléchir à autre chose?
Monsieur, d'abord les chiffres. Il y a entre 17 et 18% de CDD, il y a 85% de CDI. Mmh. Le CDI est majoritaire.
Mais les CDD progressent et aujourd'hui,
Pas tant que ça, vous savez, entre 29 ans et 54 ans, 97% des contrats sont des CDI. Mmh. D'ailleurs, on se demande pourquoi, chez les jeunes et chez les seniors, il y a une précarisation. Parce qu'elle est voulue. Parce que c'est une façon de peser sur le salaire. Il n'y a pas d'obligation d'avoir des précaires et des flexibles.
Parce que surtout, lorsqu'on signe un CDD, on est engagé sur toute la période, alors qu'on peut signer un CDI avec des périodes d'essai renouvelables qui vont qui correspondent des fois à la durée du CDD.
Vous avez raison, le CDI a été affaibli. Mais je voudrais vous parler du code du travail, puisque vous me posez la question.
Oui. Moi, j'ai vu avec le code du travail.
Oui, je suis venu avec le code. Bayrou, l'autre jour, à une télévision, balance sur la table que 3990 pages, c'est pourri tout ça, ça nous empêche de travailler. C'est un trucage. Le code du travail français fait 675 pages. C'est la loi. Si vous éditez, évidemment, François Sagan, amendé par Marcel Proust, vous n'allez pas avoir le même volume de livres. Là, le code de 3990 pages, c'est les annotations, les commentaires, la jurisprudence, les arrêtés, les décrets, les glossaires et les sommaires.
Les jurisprudences,
C'est-à-dire qu'il y a... Non. Jurisprudence, c'est pour une loi, monsieur.
Ça peut servir de loi.
Si vous allez au prud'homme, sinon ça sort.
Si vous allez au prud'homme,
le code du travail, c'est 675 lois. On dit on a trop. Et il nous dit il y a 2850 lois. C'est la droite qui a compliqué. Avant, il y avait 1150 lois avant la codification en 2004. Mais la droite a divisé les lois par 4. Donc elle en a fait 3850. En enlevant 500 au passage. Et en réduisant le code du travail de 10%. C'est-à-dire que le code actuel, il est plus petit qu'avant parce qu'il a déjà été recodifié entre 2004 et 2008. Mais ce n'est pas vrai, monsieur.
Mais vous êtes inspecteur du travail, c'est votre métier. Tous les chefs d'entreprise, tous les salariés, vous diront que c'est incompréhensible pour du travail.
Monsieur. Il y a 10 lois, monsieur, 10 qui servent au prud'homme. 10 seulement. Celles qui concernent la naissance du contrat, la gestion du contrat et la rupture du contrat avec les institutions représentatives du personnel et les ordres supplémentaires. 10. Il est très simple, le code. Ce qu'il complique, c'est les patrons. Chaque fois qu'il y a une complication dans le texte, c'est des amendements patronaux. Chaque fois qu'il y a une idée simple sur les 35 heures ou les 40 heures,
je vais vous donner un exemple. Courage de supprimer des articles.
Françoise n'a pas posé de question.
Alors moi je veux poser une question sur un sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur, je pense, plein de gens, c'est les stagiaires et l'explosion du nombre de stagiaires. On est à 1 500 000 stagiaires maintenant, je pense en 2013.
1 600 000 aujourd'hui.
Pourquoi? Ça veut dire donc qu'il y a du travail. Comment on lutte alors? Vous êtes vraiment socialiste, vraiment pour l'égalité et la justice. Comment est-ce qu'on lutte contre ça? Parce qu'au fond, si on prend autant de stagiaires, c'est qu'il y a du boulot.
Vous savez rien. Il y a une loi justement qui s'applique ça. C'est une des bonnes lois qui est passée récemment. Il y en a. La loi de Chénès qui rouille,
bien sûr, qui a
encadré les stagiaires. C'est-à-dire qu'il a dit pas plus de 10% de stagiaires dans une entreprise.
D'accord.
Qui a dit pas de stage plus de 2 et 6 mois, ça dépend de la qualité des stages. Et qui a fait un petit pécule pour obliger à payer quand même une partie des tâches qui sont élaborées. Alors pour l'instant c'est 432 €. Ça sera 583 € au 1er septembre 2015. Mais donc cette loi encadre les stages. Pourquoi? Parce qu'il y avait nécessité. Les patrons disent, il n'y a pas de boulot.
Là-dessus vous avez raison, M. Filoche. Parce que l'époque où les stagiaires c'était photocopier café, c'est terminé. Maintenant leur compris de vrai tâche.
Les patrons disent, il n'y a pas de boulot. Et puis ils prennent 1 600 000. 100 000 stagiaires c'est au lieu ça, de prendre des apprentis ça. Et tout ça. On n'a même pas 300 000 apprentis. Non,
mais alors, est-ce que là, c'est assez ferme pour le coup?
Moi, je serai ferme quand il y aura.
Est-ce que c'est assez ferme? Oui. Est-ce que c'est assez coercitif?
Quand il y aura les décrets d'application qu'on attend.
C'est-à-dire
parce que. Monsieur Filoche.
Attends, qu'il finisse sa phrase. Finissez votre phrase.
Voilà. Non, parce que évidemment, faut que ça soit plus ferme. Parce qu'en vérité, moi, je serais pour orienter vers l'apprentissage. Mais pareil pour l'apprentissage, c'est un contrat de travail. Mais il faut qu'il soit bien payé. Parce qu'il commence à 25%, après à 55%, et finit à 85%. Le môme, au bout de 3 ans, il gagne toujours pas le SMIC. Et en fait, en plus, on lui dit, oh, ça va, t'es court, laisse tomber, bosse. Et donc, en vérité, c'est une question d'encadrement, de volonté. C'est pour ça qu'il faut un code du travail. Ceux qui n'en ont pas ont un mauvais salaire, des mauvaises conditions. Et les jeunes ne sont pas formés sans code du travail. Ceux qui produisent le plus, les salariés, pour être compétitif, c'est ceux qui sont bien formés, bien traités, bien considérés et bien payés. C'est ça les économies compétitives, c'est pas la flexibilité.
Ce qui manque à la France, c'est un réseau de PME forte, donc grosse et exportatrice. Un des freins à la taille des entreprises, c'est les fameux seuils qui font qu'il y a deux fois plus d'entreprises qui ont 49 salariés que d'entreprises qui en ont 50. Donc il y a un vrai frein, hein, parce que effectivement, d'être à 50 salariés donne un certain nombre d'avantages pour ces salariés. Qu'est-ce qui pourrait rajouter un petit peu de souplesse afin d'aider les entreprises à grossir et que les patrons n'aient pas le sentiment qu'ils rajoutent de la lourdeur quand ils grossissent?
Et je me permets de vous corriger vos chiffres. Il y a 4 200 000 salariés dans les entreprises de moins de 11. Là, il n'y a pas besoin de déléguer, il n'y a rien. Rien. D'accord. À partir de 11, il y a délégué du personnel. Seulement 80% des entreprises n'en ont pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20% des entreprises qui ont des délégués du personnel sur celles qui devraient y en avoir. Vous voyez bien que ça ne gêne rien.
Mais vous me parlez des entreprises de 11, je vous parle des
plus grosses. Alors allons-y. Vous savez combien il y a d'entreprises de plus de 50
ben, je sais qu'il y en a deux fois plus qui ont 49 que deux.
Laissez-moi dire. Il y a 3% d'entreprises qui ont plus de 50 salariés. 3% seulement. 97% ont moins. Donc elles sont concernées par les DP. Je viens de vous dire que 80% d'entre elles n'ont pas de DP. Mmh. Donc ensuite, passons à celles des 3%. Parce qu'il faut quand même travailler la moitié des salariés, 8 millions et quelques. Et donc en vérité, là, il y a des CE. Ah, mais oui, les CE, il y en a. Dans 25% des cas, il n'y en a pas. Dans 25% hein. D'autres, ce sont des CE, excusez-moi l'expression, patronaux. C'est-à-dire qui ne sont pas ni d'origine syndicale, ni contestataires, et qui ne fonctionnent pas. Donc il reste une
ou
sur
des
deux.
CE qui financent les syndicats.
Il y en a une sur deux qui fonctionne avec des CE. Donc en vérité, c'est pas un blocage. Il n'y a pas plus d'entreprises à 48-49. C'est pas vrai. Il n'y a pas plus d'entreprises à 8 ou 9.
Les chiffres, c'est les
pas
vrai. Sous les
yeux. C'est pas
intéressant, les batailles des chiffres.
Si, parce que c'est ça le frein. C'est ce qui fait la force de l'Allemagne. C'est d'avoir des grosses boîtes organisées en réseau. Et la France est faible de la taille de ces deux CPME.
Au conseil d'administration de l'Allemagne, il y a 50% des salariés. Il y en a zéro en France.
Non, mais que l'Allemagne soit plus démocratique par plein d'aspects, c'est une certitude.
Vous me dites les seuils pourraient gêner ou des choses comme ça. Je vous dis qu'en Allemagne, les salariés sont la moitié des conseils d'administration. En France, l'ANI a envisagé d'en mettre un ou deux dans 250 entreprises. Même le patronat aujourd'hui s'y refuse et ça va être mis en place.
Mais là, vous parlez des gens qui sont déjà en fonction, qui ont un boulot. Alors, on peut améliorer les choses. Qu'est-ce qu'on fait pour les 5 ou 6 millions de chômeurs en France?
On réduit la durée du travail. Il n'y a pas d'autre solution.
Il faut partager le travail.
Bien sûr, le travail n'est pas bientôt. C'est une comète en expansion.
Et le chiffre d'affaires, on va le chercher où?
Mais je vous l'ai dit, il y a 1% et qui possède tout. Et il y a 1000 entreprises qui possèdent tout.
Mais c'est les 1% qui possèdent tout, c'est ceux qui peuvent se barrer le plus facilement. Vous êtes bien au courant que toutes les grosses entreprises françaises ont défiscalisé aujourd'hui, sont parties à l'étranger.
C'est normal.
Je
veux absolument les rattraper.
Vous savez qu'on est en 2014 et qu'on ne peut pas gérer la France en 2014 comme on l'a gérée à 70 ans. C'est juste pas possible.
Bien sûr.
C'est juste pas possible.
Et je suis en train de vous dire que l'impôt pour les grandes sociétés n'a jamais été aussi bas. Même Sarkozy avait fini par s'en indigner quand il a constaté que c'était
8%. Vous me faites penser à la chanson de sur Arlette, elle est très jolie cette chanson. Elle dit ce qu'elle dit, c'est très beau, c'est des bêtises, mais c'est très beau.
Concrets. C'est-à-dire qu'en France, il y a des possibilités absolument de payer si l'argent ne va pas dans les îles Caïmans. Parce qu'aujourd'hui, il rapporte plus pour
un gros entreprise. Mais monsieur, si demain, il n'y a pas de possibilité de faire du profit, vous croyez que les gens vont prendre des risques pour monter des entreprises? Vous croyez que les gens vont s'endetter, vont se mettre caution? Vous croyez que les gens vont se bouger si on ne peut pas faire du profit en dehors du profit?
Je vous mets pas en
cause. C'est juste impossible. La meilleure preuve, vous l'avez jamais fait. Vous n'avez jamais pris le moindre risque pour créer un emploi. Vous n'avez jamais créé un emploi de votre vie.
Je suis pour le profit réinvesti.
Qui est honteux d'ailleurs. Vous devriez au moins savoir de quoi vous parlez.
Je suis pour le profit réinvesti.
C'est un manque de courage. Vous avez bien compris qu'il valait mieux être salarié qu'employeur.
Attends, écoute, je suis pour le profit réinvesti. Je suis contre les dividendes dilapidés. Je suis contre le fait
que le dividende, c'est fait pour rétribuer celui qui investit. Il est normal quand dont on investit d'avoir un rendement, non?
Attendez, c'est pas un rendement, c'est une montagne
qui est parfois à la hauteur des risques qui sont pris.
Les dividendes, vous savez combien c'est les chiffres? C'est 84 milliards nets et 280 milliards bruts.
Bon, mais quel est le rendement? Quel est le rendement de l'argent investi?
Mais quel est le nombre d'emplois que ça a créé?
Je vous ferai dire que l'année, au dernier trimestre, les investissements ont baissé. Et savez-vous en France ce qui est terrible? C'est qu'il y a un taux d'utilisation des capacités productives de 70%. C'est-à-dire qu'on pourrait, avec simplement, sans investir, produire 30% plus. Et les patrons ne le font pas.
Regardez.
Pourquoi? Parce que ça les intéresse, c'est leur marge.
Regardez, Gérard Filoche, la phrase que prononce à l'instant Manuel Valls à la City, my government is pro-business. Mon gouvernement est pour les, enfin, pour les, le business, et les affaires. Business. Ça vous plaît?
Et Gérard Filoche n'y comprend rien. Il vient de le dire.
Je vais vous dire quelque chose. Je suis pour qu'il soit pour le business, pour que les salariés aient des bons salaires. Parce que dans une entreprise, c'est rien sans salariés. Qu'est-ce que c'est un patron sans salariés? Zéro plus Toto, zéro la tête à Toto. Et c'est les salariés qui créent les richesses.
Ce qui compte,
doivent recevoir
ce qui compte aussi, c'est que vendre des produits. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire quand même qu'en France, on a un problème, on vend moins bien de sûr. Produits que les autres à l'étranger ou même sur notre marché?
Mais bien sûr, pour la raison que je vous dis. Parce que les patrons ne produisent pas avec ce qu'ils ont, 70%, parce qu'ils ne font pas l'effort nécessaire pour exporter, et parce qu'ils pensent seulement à prendre de l'argent et à le mettre dans les îles Caïmans. Ça, la finance dirige notre propre patronat. Et notre propre patronat, il n'est pas efficace, parce qu'il est...
François Hollande est dirigé par la finance, finalement.
Mais François Hollande, il a évidemment cédé à la finance, alors qu'il avait dit qu'il combattrait contre. Moi, c'est tout mon désespoir. Si je pouvais parler à François Hollande, là, dans cette salle, je dirais, François, regarde ce qui se passe depuis Regarde ce qu'on te... Il nous reste 2 ans pour nous sauver, parce que tu vas tout perdre. Les départementales, les régionales, les législatives, et toi-même.
Oui,
et à la fin, le bilan sera catastrophique, parce qu'on peut pas faire une politique sans s'appuyer sur les salariés. Toi, tu veux faire une politique en t'appuyant sur les patrons, mais les patrons, ils jouent pas le jeu. Quand tu donnes 41 milliards à Gattaz, il en veut 100. Et même l'UMP derrière, on veut 140. Donc en vérité, c'est pas dans
la
cette
gauche est en train de mourir. Aller.
Mais la gauche ne mourra pas parce que nous sommes majoritaires dans le pays. La gauche, c'est les salariés.
Vous êtes majoritaire ?
Oui, bien sûr, on est majoritaire. Et la politique de notre gouvernement ne correspond pas à notre majorité. Et c'est pour ça qu'il y a un gap.
Gérard Filoche, pour se quitter, on va vous faire tweeter très rapidement, s'il vous plaît. On va vous donner 4 noms de personnalités avec une petite formule sur chaque personnalité. Si je vous dis Emmanuel Macron.
Ah, Macron 1, Macron 2, Macron 3, Macron 4. L'archétype de la finance qu'on veut imposer au Parti Socialiste.
Arnaud Montebourg.
Ah, comment? Ne dites pas mal de mon ami Arnaud, il se fâcherait. Mais vous savez qu'il pourrait être candidat, Arnaud. Je le connais. Mais il faudrait aussi qu'il écoute, je crois, les salariés un peu plus.
Ah. Nicolas Sarkozy.
Alors celui-là, c'est le malfaisant. Il a 5-4 autour de la tête et il ose revenir. Ouais, il nous a mis 550 milliards de déficit en 5 ans et il nous a mis à 5 millions de chômeurs. Et le gars, il dit « Coucou, j'en viens !»
Valérie Trier-Veller.
Elle a relancé l'édition.
Ouais, c'est la méchante.
La méchante, pour
n'aime
moi.
N'aime pas.
Ah, vous n'aime pas.
Cécile Duflot.
Ah, elle est gentille, elle. Je l'aime beaucoup. En plus, elle est tonique. Elle a d'ailleurs dit une chose vraie. Il a dit, je suis plus socialiste que Valls. C'est vrai. Et je suis pour que ce soit un gouvernement rouge-rose-vert qui l'emporte avec elle, Pierre Laurent, à la place du gouvernement minoritaire dans la gauche qui est aujourd'hui celui de Valls.
Et Premier ministre ou ministre du Travail, Gérard Filoche?
Ah, bien sûr.
Pour faire plaisir à Mourad.
Merci, Gérard Filoche.
Socialiste qui vient d'entrer.
Le livre s'appelle Comment résister à la démolition du code du travail aux éditions Le Vent se lève. Merci d'avoir passé le grand oral. GG. Et ensuite, à 13h, Éric Brunet.
Ben voilà, on a notre Manuel Valls qui est chez les Britanniques. Il s'est exclamé il y a quelques minutes que I am pro-business. Il veut un petit peu contrecarrer la perception des Anglais que les Anglais ont de la France.
Provocateur, ce Valls.
Provocateur,
il
ce Valls.
Il l'a fait en anglais ou pas?
Oui, il l'a fait en anglais.
C'est tout le discours en anglais, là?
Non, il a juste dit ça, non, faut pas exagérer. Voilà, moi, je vous dis, il y en a marre, ces rodomontades ne servent à rien. Je suis définitivement pessimiste et j'en veux un peu aux optimistes, aux idiot-optimistes. Les idiot-optimistes qui, tous les jours, parlent à la radio, à la télé. Mais non, la France est la 5e puissance du monde. Non, la France est l'homme malade de l'Europe et j'ai peine à croire que quelqu'un puisse faire en sorte que nous remontions la pente. En gros, je pense que c'est fini.
Ah, la France est foutue. Vous en parlez avec Éric Brunet à l'heure à 13h et nous, c'est le super GG.
Pour la fête encore.
RMC, 10h-13h, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Alexandre et Valérie sont impatients de reprendre la parole au 32-16.
Allô?
Allô, oui?
rien. Allez, hop, ça c'est fait.
Tu nous dis que tu regrettes, autrement je vais te le faire regretter.
Avec Mourad Boudjelal, Françoise Degois et Franck Tanguy. Valérie, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Valérie. On a beaucoup parlé de la manif pour tous aujourd'hui. Et vous vouliez en reparler avec les GG ou avec une grande gueule en particulier, Valérie?
Non, avec les GG, parce que malheureusement, j'ai pas eu le temps d'écouter tout ce que vous avez pu dire aujourd'hui. Donc, voilà.
Alors, vous êtes maman de 5 enfants et vous avez participé à différentes manifs pour tous, hein Valérie?
Exactement, essentiellement sur Lyon, et on a fait le déplacement l'année dernière sur Paris. Sur Lyon, j'ai eu effectivement l'idée d'emmener mes enfants, parce que pour eux, âgés de 16 à 3 ans, pour les grandes, c'était important, et les enfants peuvent avoir leur avis sur cette question.
À 3 ans ?
Non, à 16 ans. Et à 3 ans, évidemment non, mais il n'y avait personne à la maison pour la garder, donc elle est venue avec nous, voilà.
Et si un jour votre enfant de 3 ans dit « Maman, je suis homosexuel », vous lui direz quoi ?
Eh bien, je pense que c'est quelque chose qui peut arriver, et en aucun cas, de toute façon, je suis contre les homosexuels. C'est pas parce qu'on manifeste avec le mouvement manifeste pour tous, qu'on est contre les homosexuels.
Valérie, c'est Franck Tanguy. Quand vous manifestez, finalement, vous manifestez contre quoi? Parce que le fait que deux femmes aient des enfants et qu'elles les élèvent ensemble, ça vous pose un problème moins légitime que vous qui en avez eu 5. Quel est le fondement de votre inquiétude? Puisque quand on va manifester, c'est souvent contre quelque chose.
Alors, mon fondement, si vous voulez, c'est que j'ai une image de la famille traditionnelle où on a un père, une mère et des enfants. À partir de là, je suis tout à fait enclin à entendre qu'il y a des personnes qui préfèrent pour les femmes des femmes et pour les hommes des hommes et qui préfèrent vivre entre même sexe. Ça ne me pose absolument aucun problème. Mais il faut quand même se rendre compte que, de toute façon, le mariage, c'était quelque chose, pour moi, avant d'être civil, c'est quelque chose de religieux. Et que le mariage, c'est un homme et une femme, c'est tout. On ne m'aurait parlé de contrat civil, j'étais absolument pas contre. Mais pour mais nous, c'est une là. Attaque au niveau de la famille.
Donc Valérie, on n'a pas le droit de divorcer.
Traditionnel.
Valérie, est-ce qu'on a le droit de divorcer ou pas?
On a le droit de divorcer, oui, et de rester fidèle derrière.
Ah donc ça, on divorce, mais on reste fidèle. Ah, on va s'emmerder une partie de sa vie quand même.
Non mais, quelle est votre connaissance Valérie? Est-ce que vous avez autour de vous des familles homoparentales? Est-ce que vous avez rencontré des couples de femmes? Il y en a certainement dans les écoles de vos enfants. Hein,
Personnellement, je n'ai rencontré aucun couple homosexuel, d'accord? Donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec beaucoup de personnes quand on dit que deux femmes peuvent élever des enfants toutes seules et des hommes tout seuls. Je vois simplement, et par contre là, on a énormément d'exemples autour de nous, de personnes qui se déchirent, de couples hétérosexuels qui se déchirent, qui divorcent. Et ce que je vois, c'est effectivement un désastre pour la cellule familiale et notamment pour les enfants. Et on le déplore, et voilà. Mais
donc c'est les hétérosexuels qui actuellement détruisent la famille puisqu'ils divorcent et qu'ils se déchirent.
Mais c'est les relations humaines. C'est juste ça.
Il faut changer
ça
les
mains. Excusez-moi,
j'ai bien compris. On peut divorcer, mais on doit rester fidèle après le divorce. C'est ce que vous avez dit.
Au niveau de l'Église, c'est ce qui est reconnu.
Vous allez vous emmerder, hein. Parce que ça va être long. Hein. Après le divorce, ça risque d'être assez long, quoi.
Comme dirait Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin.
Mais déjà, Primo, je ne suis pas dans ce cas-là.
Oui, après, non, mais je parlais, je pensais. C'était une métaphore. C'était une métaphore, je ne me serais pas permis sur vous.
Attendez, Valérie, c'est intéressant ce que vous dites, chacun, parce que je comprends, vous avez des convictions religieuses et c'est tout à fait respectable, mais vous dites, en même temps, chacun fait comme il veut. Alors là, c'est un peu contradictoire, parce que finalement, vous manifestez contre d'autres gens, pas pour vous, puisque vous avez vos convictions et vous êtes fidèle avec vos convictions.
Je manifeste personnellement contre un gouvernement qui veut légiférer sur des choses, parce que j'ai aucune statistique, mais pour moi, les couples homosexuels réclamant le mariage et réclamant l'adoption sont une minorité.
Bon, bah alors.
Et
ça sert à rien de descendre dans la rue.
Et que la majorité des gens qui sont concernés par ces choses-là sont agacés par toutes les réactions qui sont faites autour de ça. Madame Taubira a voulu légiférer là-dessus et c'était pour mettre son nom dans l'histoire, mais on est contre le fait de légiférer sur des choses qui, de toute façon, n'apporte pas grand chose, il n'y a pas de changement.
Donc ça devrait rien vous faire. Ça donne des droits à d'autres gens.
Valérie, on va en parler avec Alexandre qui est cadre commercial dans l'Ain. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour les
GG. Et lorsque Mourad Boudjel disait tout à l'heure que la place des enfants n'était pas dans la manifestation, ça vous a choqué Alexandre?
Oh, ça m'a énervé, mais je vais me calmer depuis tout à l'heure.
Allez-y, on vous
écoute. C'est dommage, Alexandre. On aurait pu s'amuser un peu. Bonjour.
Bah, écoutez, je vais vous remercier déjà pour le match que vous avez fourni à Oyonnax ce week-end.
Vous êtes de Oyonnax?
Oui. Je vais remercier aussi Oyonnax parce que avec l'équipe que vous avez mis en face et
il y a une belle équipe en Oyonnax.
Avec une équipe un peu réduite, je trouve qu'ils ont fait une très très belle performance avec une équipe comme la vôtre.
Voilà. J'en suis tout à fait d'accord. Voyez,
donc voilà, vous m'avez un petit peu énervé parce que de ramener un petit peu le débat sur ce qui se passe dans le monde.
Oui, on est dans le monde.
On sait tous qu'il y a des malheureux dans le monde, hein, on est bien d'accord. Il y en a aussi beaucoup en France. Moi, ce qui m'énerve sur ce débat-là, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on est contre quelque chose sans qu'on dise qu'on est homophobe, ou sans si on a un problème, on se dit il y a un problème d'intégration dans notre pays sans être traité de raciste. C'est une question, moi, qui commence un petit peu à m'énerver. Moi, aujourd'hui, j'ai toujours combattu parce que je pense que l'avancée, et c'est là que le combat, moi, je le comprends pas au niveau des homosexuels. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'es pour moi déjà les premiers combats pour l'homosexualité, c'est éviter dans notre pays, hein, qui la France pour moi est quand même un pays que je trouve généreux, et je pense qu'on oublie de dire que les Français malgré tout, c'est quand même des gens qui sont super généreux et je trouve acceptent quand même beaucoup de choses.
Mais on ne doit pas tout accepter, c'est ce que vous dites aujourd'hui, Alexandre.
Alors, Alexandre, j'ai pas dit que vous étiez homophobe, j'ai simplement posé une question qui est de dire, à votre avis, est-ce que des enfants qui sont dans des pays d'Afrique noire, par exemple, dans des orphelinats, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir deux parents du même sexe serait un problème pour eux? Demandez-leur leur avis. Moi, je pense pas. C'est tout. J'ai posé cette question à laquelle on m'a répondu. Je préfère que ces enfants restent dans un orphelinat en Afrique noire. Ça s'arrête à ça. Après, je me permettrai de traiter personne d'homophobe ou d'autres. Chacun est libre. Après, la seule chose que je sais, c'est que moi, je manifesterai le jour où on me retirera des droits. Pas le jour où on en donne à d'autres.
Valérie, Alexandre, merci d'avoir participé à ce super GG. Vous avec Mourad Boudjelal, Françoise de Goa et Franck Tanguy. On se retrouve demain 10h. Charles Consigny, Didier Giraud, Marianne Soubré et l'invité du grand oral des GG. C'est assez amusant parce que c'est le paradoxe des grandes gueules. Aujourd'hui, c'était Gérard Filoche et demain, le financier Marc Fiorentino qui sera avec nous. Donc, on passera du socialisme à la Filoche, au libéralisme à la mode Fiorentino. Et dans un instant, Éric Brunet pour qui? C'est parti, c'est fini. La France est foutue, mesdames, messieurs.
RMC, les grandes gueules s'écoutent aussi en podcast et sur rmc.fr.